Les écrans philosophiques, un cycle conçu par la Maison Populaire et organisé avec le Collège International de Philosophie et de Cinéma Le Méliès, en collaboration avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enregistrement de la séance du mercredi 14 décembre 2011, à l'issue de la projection du film « Au hasard, Balthazar » de Robert Bresson, réalisé en 1966 et présenté par Pierre Loret, philosophe directeur de programme au Collège International de Philosophie.
Bonsoir. C'est pas très facile en fait, je trouve, de parler après ce film. Donc, Au hasard, Balthazar est un film de Bresson réalisé en 1966 entre Procès de Jeanne d'Arc, qui date de 1962, et Mouchette, qui date de 1967. Et comme vous avez pu le constater, c'est un film très riche. C'est un film qui a été élaboré pendant plusieurs années. Jean-Luc Godard disait qu'il y avait tout dans ce film. Parce que ça va de l'enfance à la mort, et en un sens, c'est vrai qu'il y a tout. Et c'est aussi un scénario original de Bresson, à la différence de Procès de Jeanne d'Arc, qui s'appuyait sur les minutes du procès, et de Mouchette, qui était une adaptation de l'œuvre de Bernanos. Alors je partirai de l'idée que ce film, comme tout film de Bresson, est à la fois un manifeste esthétique et un spectacle moral. Un spectacle n'est pas un enseignement. C'est-à-dire que le film, à mon avis, compose et même impose une image morale du monde. Mais même s'il s'agit d'une fable, d'une sorte de parabole, la leçon de cette parabole reste obscure. Quant à un manifeste, ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut appliquer systématiquement. Bresson aimait bien être surpris pendant ses tournages. Mais un manifeste, c'est la mise en œuvre, me semble-t-il, à la fois d'une idée du cinéma, et puis de principes de réalisation de l'œuvre. Ces principes peuvent être assez nombreux, mais j'en retiendrai trois. Le premier, c'est que le cinéma est un art, et que c'est d'abord un art du montage, comme le montre tout de suite le montage entre la musique et les braiments de l'âme. C'est la première chose qu'on entend, et il y a pas mal de choses qui sont montées au son chez Bresson. Enfin, en tout cas, il faut suivre aussi la bande sonore pour comprendre l'unité du film. Un deuxième principe, c'est que l'objectif est unique. Et donc ça pose pas mal de contraintes à la fois de distance, il peut pas y avoir... Bresson détestait les recadrages également, il détestait les changements de points, bref, il se donne un certain nombre de contraintes qui donnent une unité au film. Enfin, évidemment, un des principes les plus évidents, c'est la manière de lire le texte. Florence Delay, qui a interprété Jeanne dans Procès de Jeanne d'Arc, parle de recto tono. Le recto tono, en chant grégorien, c'est une psalmodie sur une seule note. Ça me paraît un peu réducteur, c'est pas exactement ça qui se passe, mais quand même, il se passe quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'une uniformisation du ton. Jacques Rancière lui parle d'un ton de catéchisme. C'est déjà un peu plus près de ce qui se passe, je crois. En tout cas, c'est une manière de lire le texte que Bresson oppose explicitement à la diction expressive des acteurs de théâtre, ou du moins ce qu'il croit être la diction expressive des acteurs de théâtre. Et il s'agit essentiellement de dire le texte sans intention. Et Bresson était très exigeant à ce propos-là. Il faisait répéter le texte un nombre incroyable de fois. Il faisait faire des post-synchronisations. Le son chez Bresson est complètement artificiel. C'est pas du tout du son direct. Tout est extrêmement travaillé. C'est pas du tout un son pris sur le vif. Bien. Et donc, le film... Je l'ai vu très souvent et c'est un film que j'ai toujours trouvé très compliqué à comprendre. Donc je suis parti d'une question, c'est quel est le rapport exact entre le manifeste esthétique et le spectacle moral? Alors je vais partir de choses qui me paraissent les plus simples, c'est que la morale de Bresson, telle qu'on peut la déceler à travers tous ses films, est une morale que je dirais à la fois aristocratique et chrétienne. Les deux à la fois, alors que ça ne va pas toujours ensemble. C'est une morale aristocratique, par exemple, dans ses notes sur le cinématographe, Bresson écrit « Metteur en scène ou director, il ne s'agit pas de diriger quelqu'un, mais de se diriger soi-même. » Donc quelqu'un qui se fixe cette devise, c'est quelqu'un qui veut être maître de lui. Et c'est en ce sens que je trouve que ça relève d'une morale aristocratique, c'est-à-dire une morale qui défend un certain idéal d'exigence, un idéal d'indépendance, un idéal de liberté. Dans les personnages du film, comme vous avez pu le constater, sont très loin, dans la mesure où ils sont presque tous dominés par leur passion ou par leur passivité. Cette morale aristocratique se marque aussi à des signes plus anecdotiques, comme le fait qu'il y a une dépréciation constante des mobylettes, de la radio, de la variété, enfin d'une certaine forme de vulgarité moderne. Tout ça nous éloigne beaucoup de Jeanne d'Arc, ou du condamné à mort s'est échappé, c'est-à-dire justement des êtres qui incarnent chez Bresson, je crois, cet idéal à la fois de liberté et d'exigence. D'autre part, cette morale est une morale chrétienne. Bon, ben dans le film, c'est évident, c'est un film qui parle du mal. Il n'y a pas besoin de chercher très longtemps quel est son. Il y a une histoire, mais il y a un sujet, et le sujet, c'est le mal. Et ce mal s'accompagne ou prend notamment la forme de l'absence de compassion. Alors, d'une part, la religion est très présente dans le film, très vite, d'ailleurs, hein, l'âne est baptisé. Hein, d'autre part, le sens premier de la fable, qui n'est d'ailleurs pas un sens faux, je crois, mais qui est un sens un petit peu trop simple, le sens premier de la fable n'est pas si compliqué que ça. On peut dire que l'âne Balthazar passe de maître en maître, hein, et que, au fond, cet itinéraire est un peu un chemin de croix. C'est une sorte de passion, comme la passion du Christ. Parce que l'âne, dans le film, c'est le seul être qui n'a pas la possibilité de faire le mal. C'est-à-dire que c'est un être innocent. Et cette innocence est extrêmement révélatrice, évidemment, de son contraire, c'est-à-dire des vices des hommes. Et parmi ces vices, il y a évidemment l'orgueil qui caractérise le maître d'école, l'ivrognerie, la peur et la folie violente qui caractérisent Arnold, qui est interprété par Jean-Claude Guilbert, un personnage qui avait. Qui est un personnage très intéressant par ailleurs, un personnage d'anarchiste absolument radical qui avait traîné dans les milieux situationnistes dans les années 50. Et puis il y a aussi l'avarice et la lubricité, interprétés par le marchand de grains joué par Pierre Klossowski. Mais oui, c'est Klossowski, oui, Klossowski qui joue le marchand de grains à l'avare. J'en parlerai parce qu'il ne joue pas comme les autres, en fait, à mon avis. Mais évidemment, ces figures sont des figures de vice particuliers. Mais il y a deux figures qui sont beaucoup plus importantes, deux figures qui sont culminantes du mal, qui sont des figures symétriques. Il y a évidemment la figure de Gérard. Il me semble que ce qui caractérise Gérard, c'est la malignité pure. C'est quelqu'un, tout ce qu'il fait, c'est pour le mal. Et tout ce qu'il fait, c'est de la cruauté. D'autre part, c'est une figure évidemment un peu diabolique, puisqu'il exerce un certain attrait. Comme on le sait ou comme on ne le sait pas assez, le mal, c'est contagieux. Et il représente cette forme de contagion du mal, c'est-à-dire le fait qu'il exerce un attrait, qu'il entraîne les autres avec lui, qu'il cherche tout le temps à piéger les gens. Bref, c'est une figure diabolique, mais je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de grandeur. C'est-à-dire qu'il représente un attrait du mal, mais au fond, quand on regarde le film, on ne voit pas tellement ce qu'il a d'attrayant, à part un certain charme physique de sa personne. Il n'y a rien qui nous attire tant que ça dans ce personnage. Enfin, voilà, il n'a pas vraiment la beauté du diable. Une autre figure du mal, plus énigmatique, moins évidente, c'est celle de Marie. Parce que ce que Marie représente, c'est la passivité. C'est le contraire absolu de la liberté de Jeanne d'Arc. C'est une passivité qui prend parfois les allures d'une faiblesse atroce. Par exemple, la scène où Arnold est battu et où elle traite Gérard de lâche pour ensuite partir à son bras. Ou bien la très belle, je trouve très belle scène de séduction avec les larmes qu'elle laisse couler dans la voiture, qui sont tout simplement les larmes de la défaite, parce qu'elle sait qu'elle va être défaite, elle sait qu'elle va être prise. Et je pense que ce qui la fait pleurer, c'est pas simplement qu'elle va être défaite, c'est qu'elle se bat même pas. Et il me semble que ça, du point de vue de Bresson, ça c'est quelque chose de. Ouais, c'est le mal. Au fond, Marie est quelqu'un qui fait de l'amour une oblation, mais pervertie en docilité et même en veulerie, au fond. Alors voilà, ça c'est le sens de la fable, et comme vous le voyez, c'est un sens pas très indulgent, enfin c'est quelque chose d'assez évident, etc. Mais je pense qu'on peut essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Alors, d'abord, je me suis dit, ben, l'âne, il révèle parce que son innocence, elle renvoie plus fondamentalement à une intentionnalité non humaine. C'est-à-dire que l'âne a une intentionnalité incontestable, c'est-à-dire qu'il a une manière de s'orienter dans le monde. Je dirais que les ânes ont un esprit. C'est-à-dire que ça leur fait quelque chose d'être ce qu'ils sont. Ils ont une certaine forme d'intériorité, une certaine forme de rapport à eux-mêmes. En même temps, cette intentionnalité est complètement opaque. Et cette opacité, elle est rappelée plusieurs fois, notamment dans la scène de cirque, on voit les différents regards des animaux, bon, voilà, qui sont des regards dont on ne peut absolument pas saisir le sens, au fond, tout simplement. Voilà, il y a même une certaine insistance de Bresson sur ce point. Donc ma question, c'est qu'est-ce que réfléchit cette innocence au fond? Qu'est-ce qu'elle réfléchit? C'est-à-dire qu'est-ce que l'absence de réflexivité de l'âne donne à voir de la conduite des hommes et du sens moral de cette conduite. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une sorte d'effet de miroir, au sens où ce qui caractérise essentiellement la présence des personnages, c'est, me semble-t-il, une certaine forme d'absence d'intention. C'est ici qu'intervient évidemment la poétique de Robert Bresson, et pour y réfléchir, je me suis beaucoup inspiré, je donne ma source d'un article de Jacques Rancière, dans son avant-dernier livre, qui s'intitule « Les écarts du cinéma », il y a une analyse de Mouchette. Et c'est une analyse très, très éclairante, j'ai trouvé. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'ont paru très justes. Mais avant de parler de Rancière, voyons ce que dit Bresson. Alors, Bresson définit son art, le cinématographe, comme un anti-théâtre. C'est-à-dire qu'il distingue le cinématographe du cinéma. Et qu'est-ce que c'est que le cinéma ? C'est du théâtre photographié. Qu'est-ce que c'est donc que le cinématographe si ce n'est pas du théâtre photographié, si c'est un anti-théâtre ? Eh bien, ça se caractérise essentiellement par deux choses. La première chose, c'est qu'il ne doit pas y avoir de jeu d'acteur. Bresson fait une critique qu'on peut dire platonicienne de l'acteur, comme étant une sorte d'imitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui envoie des simulacres. En clair, l'acteur, c'est quelqu'un qui joue Hamlet, alors qu'il n'est pas Hamlet. Donc il se fait passer pour Hamlet, mais en même temps, il n'est pas non plus qui il est. Donc au fond, voilà, c'est simplement une sorte de tromperie. Et à cette idée de l'acteur, avec sa déclamation, sa codification d'expression toute faite, à cette idée, Bresson oppose l'idée d'un modèle. Mais il y a une analogie un petit peu trompeuse, je crois, ici, avec la peinture, parce qu'au fond, c'est pas tellement un modèle au sens des peintres. Hein, ce qui caractérise ce que Bresson appelle le modèle, c'est plutôt une sorte d'abrasion complète des intentions signifiantes dans la manière de dire le texte et dans les gestes. Et donc, on a une sorte de disparition de la représentation de la pensée consciente. Et cette disparition de la représentation de la pensée consciente, pour Bresson, elle est censée faire apparaître justement la vérité intérieure des personnages. En quelque sorte, Bresson, en faisant répéter sans cesse le texte, en essayant d'arriver à quelque chose qui soit complètement vide d'intention, impose une sorte d'automatisme. Et cet automatisme libérerait, d'après lui, un automatisme plus intérieur, qui est tout simplement l'être le plus profond du modèle, sa vérité intérieure. Le deuxième principe, c'est qu'il ne doit pas y avoir de représentation au sens de l'enregistrement d'un spectacle, mais qu'il doit y avoir une expression qui est obtenue par des rapports entre les images, des rapports d'images et de sons. Et là encore, Bresson fait une analogie trompeuse avec la peinture. Il écrit dans ses notes sur le cinématographe « Un bleu n'est pas le même bleu à côté d'un vert, d'un jaune, d'un rouge. » En fait, c'est la reprise d'une idée très connue, déjà formulée par Léonard, qui a été reprise par Degas. Mais en fait, dans un film, ça ne se passe pas comme ça, parce que précisément, ça, c'est nier la succession. C'est-à-dire que dans le film, le bleu, une fois qu'il est passé, ben, on voit le jaune, puis ensuite on voit le rouge, mais on ne les voit pas ensemble. Il ne faut pas exagérer. Donc je pense que l'analogie avec la peinture, que fait souvent Bresson, est une analogie extrêmement trompeuse. Je pense de la même manière que l'opposition au théâtre est extrêmement égarante. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce que Bresson fait, c'est la critique d'un certain mauvais réalisme du théâtre. Et cette critique, elle est déjà accomplie. Et elle a déjà été accomplie au théâtre même. Et il me semble qu'elle a été accomplie, là je reprends ce que dit Rancière, je suis assez d'accord avec lui, elle a été accomplie à partir de la littérature. Et à partir du moment où la littérature, dès son moment romantique, au fond, a contesté un certain ordre représentatif classique. Cet ordre représentatif classique se caractérise d'une part par le primat de l'intrigue, c'est-à-dire un agencement des actions selon le vraisemblable et le nécessaire dans la poétique d'Aristote, et puis d'autre part, ça se caractérise par une sorte de codification de la parole et de l'expression des émotions. Et contre cela, la littérature, on peut dire moderne, celle qui commence en tout cas avec le romantisme allemand, cette littérature, elle impose trois idées. Un impose trois principes. Le premier principe, c'est l'égalité des sujets. L'égalité des sujets, c'est ce qu'on va trouver dans le fait que, au fond, chez Flaubert, Madame Bovary vaut bien Salammbô. Ou c'est dans le fait que chez Cézanne, eh bien, on peut faire un tableau, un très grand chef-d'œuvre en peignant des pommes. Et chez Robert Bresson, on constatera, hein, il le dit lui-même, les objets doivent marcher au même pas que les hommes. De cette égalité de tous les sujets, je crois, on a une illustration magnifique à la fin du film avec ces images de l'âme. À la fin, qui est seul dans la montagne, puis au milieu des moutons, hein, dans une boucle parfaite, parce que ça commence au milieu des moutons, ça finit au milieu des moutons, moutons dont on sait bien que eux aussi, à leur tour, hein, ils vont être abattus, égorgés, mangés, etc., etc. Le deuxième principe, après l'égalité des sujets, c'est ce que Rancière appelle le traitement séquentiel du temps. C'est-à-dire une narration qui procède par des blocs inégaux et discontinus d'espace-temps, qui s'opposent aux chaînes temporelles homogènes de causes et d'effets qu'on peut trouver dans la narration classique. Et ça, on le trouve chez Bresson dans le fait que, effectivement, il y a des coupures entre les séquences, dont chacune est un petit peu animée par sa dynamique interne. Il y a de fortes ellipses. Il y en a une dès le départ, puisqu'on voit le père qui dit à ses enfants qui veulent l'âne, c'est impossible. Et l'image d'après, c'est fait, en fait. Ça, c'est très bressonien, parce qu'il n'y a pas d'impossible, d'une certaine manière. C'est impossible, mais si, justement, ça l'est. Et c'est très représentatif de beaucoup de choses qu'il y a dans le film, des dénis, comme ça, ou des démentis, plutôt. Il y a des démentis, c'est-à-dire, on dit une chose, et puis le contraire exactement se passe, hein, comme lorsque le maître d'école dit non à l'avare, parce qu'il ne veut pas reprendre l'âne, hein, il ne vaut plus rien contre la dette, et puis l'image d'après, on le voit rentrer chez lui avec son âne. Ou bien un démenti un petit peu plus important, c'est la prière. C'est la prière de la femme du maître d'école qui est immédiatement démentie par la mort de son mari, ce qui est une manière de nous dire que la prière vient toujours trop tard. Alors un troisième principe de la littérature qui est un peu plus compliqué, que j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre, c'est ce que Rancière appelle la parole muette. Mais je voudrais essayer de vous faire voir ce qu'il veut dire. Pour lui, la littérature, c'est complètement séparé du modèle de l'éloquence. Quand elle essaie d'être une parole qui fait parler ce qui est muet, ou bien qui au contraire s'accorde à une sorte d'absence de signification de ce qui est, tout simplement, pour enregistrer l'intensité des êtres, ou leurs vibrations, ou leur changement de climat. La parole muette, c'est un petit peu une certaine façon de donner un visage aux choses, comme par exemple les souliers de Van Gogh, qu'on a décrit parfois comme un autoportrait. Et en même temps qu'on donne un visage aux choses, eh bien, on regarde les visages comme des paysages. Des paysages qui sont changeants sous la lumière ou sous le passage d'un nuage, comme le visage d'un Wiazemski qui est vraiment traité comme ça, très picturalement, effectivement, qui n'arrête pas de changer, de vibrer, etc. Et donc, dans cette manière à la fois de s'attarder sur les choses sans les intégrer vraiment à la narration, ou de traiter les visages comme des choses qui n'ont pas vraiment de sens, il me semble qu'il y a une sorte de suspension du sens intentionnel. Et ça, ça produit à la fois de l'incarnation, parce qu'on incarne les choses, comme dans les films de Dreyer, par exemple, on voit l'herbe, les pierres, tout ça incroyablement incarné, et puis en même temps de désincarnation, parce que la parole n'est plus du tout comme un verbe incarné. Et donc, la thèse de Rancière, que je trouve une thèse, c'est une thèse qui dépasse le cinéma, c'est une thèse sur l'art moderne, au fond, c'est que le cinéma, comme art, ne vient pas contre le théâtre. Ça, c'est une vision, au fond, très réductrice de ce que le théâtre peut faire et de ce qu'il fait très effectivement. Il ne vient pas contre le théâtre, il vient après la littérature, il vient après une nouvelle manière de raconter et de signifier. Un certain bouleversement des rapports entre la signification et le fait de montrer les choses dans l'art de la fiction. Et la thèse de Rancière signifie notamment que c'est pas vrai que l'art moderne se définit par le repli de chaque art sur son propre médium, etc., que le cinéma est autonome. Le cinéma n'est pas autonome, il est en rapport avec les autres arts, et alors on ne peut pas tracer des frontières de cette façon. Donc ma question, assez simple, c'est comment le cinéma de Bresson rentre-t-il dans ce régime de la fiction, et comment est-ce que sa manière de filmer va avec son spectacle moral? Il me semble qu'il y a deux types d'images chez Bresson. Il y a deux manières de... Voilà. C'est un art très uni, et en même temps, si on est attentif à la manière dont c'est filmé, on voit deux choses. Il y a, d'une part, des images relais qui correspondent à des actions. Et puis, il y a des images écrans qui sont plutôt des images expression que des images action. Le plus simple à comprendre, c'est l'image action, c'est-à-dire l'espèce d'image relais. Robert Bresson est quelqu'un qui a toujours adoré montrer l'action. C'est une évidence. Depuis Un condamné à mort s'est échappé jusqu'à L'argent, c'est quelqu'un qui monte très cut comme ça l'action. On voit quelqu'un qui démarre une voiture, on voit quelqu'un qui voit dans L'argent, c'est très frappant, on voit la hache, on voit quelqu'un qui, qui trafique un distributeur de billets de banque. L'action est montée, et elle est montée d'une manière très particulière, elle est montée par fragmentation hein, et montage. C'est-à-dire qu'il y a un montage d'images fragments, et c'est toujours les mêmes choses. On fragmente les espaces, on fragmente les corps. Quand il s'agit de montrer l'action, Bresson, ce qu'il montre, c'est les mains, les regards, mais juste le regard, et les pieds. On pourrait même dire qu'il y a un certain maniérisme. Maintenant que j'en ai vu pas mal, je me dis, ah oui, les mains, les pieds, maintenant on va voir le regard, puis on va revoir les mains, on va revoir les pieds. Hein, c'est assez particulier. Alors, Bresson dit que c'est pour éviter la représentation, mais en fait, je pense que ça évite pas du tout la représentation, c'est tout le contraire. Ce découpage et ce montage, ça, au fond, ça appartient à une poétique de la représentation de l'action qui existe depuis Aristote, puisque Aristote disait la tragédie se fait pour montrer l'action. C'est exactement ce que fait Bresson. Et donc, on pourrait parler ici d'image relais au sens où chaque image s'insère dans une chaîne, c'est-à-dire que chaque image a pour fonction vraiment de suivre celle qui précède et d'annoncer celle qui va arriver. Donc l'image, pour finir, elle n'est pas là pour nous impressionner, elle est juste là dans une chaîne, dans une véritable chaîne visant à montrer l'action par un processus de fragmentation et de montage. Alors comme Bresson est très fort pour faire ça, évidemment, ben, ça, dans le film, ça a un double effet. Le premier effet, c'est que ça montre la différence entre l'action des hommes et le travail des bêtes. C'est-à-dire que d'un côté, on a la logique linéaire de l'action avec ses gestes qui s'enchaînent, et d'autre côté, on a la logique mécanique et répétitive du travail. D'un côté, on a la malignité, de l'autre, on a l'innocence. D'un côté, on a la domination et la violence. Il y a énormément, hein, de gestes qui sont des gestes très violents sur les bêtes. Hein. Et on bat, on voit des fouets, des coups de bâton, etc. Et de l'autre côté, il y a la soumission, puis il y a un être de victime. Je pense que c'est un des aspects prégnants du film, c'est de montrer le sort des bêtes et des animaux domestiques dans le monde des hommes. L'autre effet de cette manière de filmer l'action, c'est que, oublions le travail des bêtes, regardons l'action, l'action est toujours filmée par Bresson comme une sorte de traque. Rancière souligne ça à propos de Mouchette, mais c'est très frappant aussi dans Au hasard Balthazar. Car l'action, ça consiste à épier, ça consiste à poursuivre, ça consiste à attraper. Ça consiste à piéger, ça consiste à dominer, ça consiste à détruire. L'action, c'est une forme de traque et de prédation. On pourrait considérer que Marie et Balthazar sont vraiment des proies. Et c'est très frappant le moment où Marie dit qu'elle veut toujours s'enfuir, qu'elle a toujours voulu s'enfuir, s'enfuir, et on sait que ça ne va pas marcher. Bon, d'accord, elle finit à la fin par s'enfuir, mais enfin, il est un petit peu trop tard. Et de la même manière que l'action est une traque, le cinéma aussi, en multipliant ces chaînes d'images relais, est aussi une traque d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'image relais, c'est au fond une image cible. Hein, la caméra, elle suit l'action exactement comme l'action suit sa proie. Hein, il y a quelque chose de très homogène là-dedans. Et donc tout cet aspect du filmage relève une certaine hyperfonctionnalité des enchaînements narratifs, qui ne va pas du tout dans le sens d'un suspens de l'action, d'une distension du temps, ou de la causalité. À deux points près seulement. Premier point, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est frappant dans ce film, enfin en tout cas moi, ça me frappe toujours, je ne sais pas si vous, oui, c'est qu'il y a quand même un grand écart entre la précision des gestes et l'obscurité des intentions. C'est-à-dire que l'action est montrée, mais il est beaucoup plus difficile de comprendre son sens, beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi Gérard fait toujours quelque chose qui va, voilà, qui va vers le mal, pourquoi le père s'obstine dans son orgueil. C'est quand même assez particulier. Et le deuxième point, c'est que les regards épient ou fuient, mais se rencontrent extrêmement rarement. Ils se rencontrent extrêmement rarement, et donc les personnages, au total, un peu des îles. Il y a une certaine insularité de chaque individu, parce que chacun est un petit peu comme incompréhensible aux autres, et peut-être à lui-même. Et donc le monde humain, on pourrait dire, que traverse Balthazar, c'est un monde qui, sous certains aspects, est très unifié. Parce que d'une part, il y a une grande unité de ton dans le film, et d'autre part, il y a une grande unité morale, c'est que tout va au mal. Et en même temps qu'il est très unifié, c'est un archipel. C'est-à-dire que tous ces êtres, ce sont comme des îles qui ne communiquent pas réellement, qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas, qui ne sont pas dans une dialectique, qui ne sont pas dans un dialogue, qui ne sont pas dans un échange, qui ne sont pas dans un partage, chacun est dans son trip, et puis voilà, c'est une humanité complètement séparée. Et ça m'amène à l'autre forme de filmage de Bresson, l'autre forme d'image, ce que j'appellerais des images écran et puis des images relais, c'est-à-dire l'image comme expression. Alors évidemment, ce qui ne fonctionne pas du tout du point de vue de la logique narrative de la représentation, c'est la manière dont Bresson inscrit des corps expressifs dans le plan. J'entends par corps expressif justement pas les corps actifs. Les corps actifs dont on voit les mains, les pieds, etc., le regard, juste les yeux hein, qui épient, mais les corps expressifs qui se caractérisent par le visage et par la parole. Jean-Claude Gilbert, dont je vous parlais tout à l'heure, disait, hein, il y a une interview de lui très drôle ou très intelligente, où il dit « C'est très bien de travailler pour Bresson, c'est un travail bête. » Qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit « Ben non, c'est bête, quoi, je fais ce qu'on me dit de faire, et puis voilà, vous voulez dire que Bresson est bête ?» Ben non, lui, il est très intelligent, c'est lui qui fait le film, mais moi, je suis bête là-dedans. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il me semble qu'il veut dire que ce qu'on lui demande, c'est une espèce d'être au monde entièrement coupé de ses intentions et de ses motifs. Il y a une sorte d'opacification. Et cette opacification opère bien sûr, là pour le coup, une vraie rupture dans la logique de la représentation classique, parce que la logique de la représentation classique, elle raccordait toujours l'action à une intention. Toujours. C'est justement l'intention qui constitue le fil rouge de la narration. Je dirais donc qu'il y a deux principes contradictoires à l'œuvre dans ce film, et dans la plupart des films de Bresson. D'un côté, il y a l'enchaînement des images-actions selon une intrigue de la traque et de la prédation, et le filmage fonctionne comme une sorte de chasse. De même qu'on dit, ben voilà, il y a le viseur, la caméra, c'est comme le viseur du fusil. Et ça, ça correspond à une logique narrative extrêmement au point. Et puis d'autre part, il y a la performance des corps parlants, qui vient rompre complètement cette adéquation ou cette hyperfonctionnalité, et qui retrouve pour le coup à la fois le suspens, une forme d'incarnation et de désincarnation. Et ça, c'est plus une logique narrative, c'est une logique expressive. Et je parle d'image écran en un double sens, au sens où l'écran est comme une sorte de surface d'inscription d'éléments qui sont indifféremment signifiants ou insignifiants, et que d'autre part, l'image, c'est ce qui fait écran, au sens d'une sorte de surface énigmatique où vient vibrer quelque chose comme une intériorité incompréhensible, comme ces plans de Arnold, où... véritablement, il n'y a aucune intelligibilité à quoi on a accès. On a juste accès à la vibration. On sent qu'il y a une intériorité derrière, mais elle nous est complètement opaque. Elle semble complètement opaque au personnage lui-même. Comment comprendre cette logique de la fable contrariée? C'est-à-dire le croisement de ces deux logiques. Je ne crois pas personnellement tellement à la thèse de Bresson de la vérité intérieure. J'y ai cru pendant un certain temps, mais en regardant au hasard Balthazar, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que nous révèle cette âme? De quoi s'agit-il avec un âne? Et l'âne, c'est un animal. Et l'âne nous montre qu'un être au monde, animal, c'est-à-dire dont l'intentionnalité ne peut pas être comprise en termes d'intention. On ne peut pas avoir une idée de ce qui se passe dans la tête de l'âne. Il est déjà difficile d'avoir une idée de ce qui se passe dans la tête d'un aveugle de naissance, par exemple. Mais alors, dans le cas d'un âne, c'est vraiment impossible. Dans le cas d'une chauve-souris, c'est encore plus impossible. Donc, au fond, je me suis dit, parce que ce que ça nous montre, l'âne, c'est qu'une intentionnalité, une manière de s'orienter dans le monde, comme ça, avec une perception, des réactions, un instinct, etc., si on ne peut pas la comprendre en termes d'intention, cette intentionnalité n'est pas humaine. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que la ligne que suit Marie dans ce film paraît aussi erratique et aussi hasardeuse que celle de Balthazar. C'est une vie, comme presque toutes les autres montrées dans le film, qui est dénuée de sens. Et il n'y a aucune vérité intérieure, à mon avis, qui peut effleurer dans une expression qui est tout entière réfugiée dans une sorte d'intentionnalité opaque et inconsciente des corps. Il n'y a aucune vérité intérieure parce qu'en fait, il n'y a rien à vérifier. Il n'y a rien à vérifier. Pour qu'il y ait vérité, il faut qu'il y ait un processus de vérification d'une manière ou d'une autre. Et là, il n'y en a aucun. Tout ce qu'on peut vérifier, si on veut chercher des vérités, c'est des clichés, à savoir qu'un homme grand, maigre, un peu raide, avec un profil aquilin, est un orgueilleux, ou voilà, enfin, des choses qui, évidemment, ne sont pas tellement intéressantes, au fond. Donc, je ne pense pas, je ne crois pas du tout à la thèse de Bresson. Je ne crois pas non plus que les corps marquent ici une sorte de puissance de résistance à l'intrigue de traque, à la logique de prédation de la narration, comme c'est le cas, en effet, dans « Procès de Jeanne d'Arc », dans Un condamné à mort s'est échappé, et dans une certaine mesure aussi, comme c'est le cas dans Mouchette, où Mouchette est quelqu'un qui, d'une certaine manière, va être victime, mais qui est quand même quelqu'un qui résiste. Là, c'est pas tellement le cas, je crois qu'au contraire, il n'y a que passivité et perdition, et que donc, il n'y a aucun personnage qui marque une certaine forme de coïncidence à soi dans une dissidence, à l'exception justement de l'avare. Quelque chose qui est frappant dans le personnage de l'avare, c'est que c'est le seul personnage dont la manière de vivre correspond à un ordre de motivation explicite. C'est quelqu'un qui développe tout simplement sa conception de l'existence. C'est une sorte d'athéisme radical. Il est assez frappant qu'à ce moment-là, elle lui rend l'argent, disant, moi, en fait, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin d'un ami. C'est-à-dire que cette vision est immédiatement condamnée par Bresson, par l'intermédiaire de son personnage. Cette forme d'athéisme, le type dit, mais là, même la parole ne sert à rien, il suffit du billet de banque. Et c'est très frappant que ce soit Klossowski qui interprète, enfin, qui soit là pour incarner ce personnage, dans la mesure où on a le sentiment qu'au fond, Klossowski, bon, c'est un grand penseur, c'est un grand écrivain, c'est une espèce d'énorme autorité. C'est pas aussi évident de lui faire jouer un imbécile, c'est jamais des imbéciles, mais de lui faire jouer une absence de sens, que de le faire faire à une jeune fille ou à Jean-Claude Gilbert qui fait ça pour gagner de l'argent. Là, il y a quand même une certaine résistance, j'ai l'impression, de l'intellectuel à cette absence totale d'intention. Et donc, comment comprendre au total cette convergence entre cette logique narrative de traque et de prédation, et puis cette hyper-passivité des personnages, etc., l'absence des personnages au sens de leurs actes. En dernier instant, je me dis, c'est tout bête, c'est simplement une représentation tragique. C'est une représentation tragique de la vie humaine, mais une représentation qui ne passe par aucun dévoilement, aucun renversement entre les intentions et les résultats, puisqu'on ne connaît pas les intentions, et donc aucune leçon. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une représentation tragique? Ça veut dire que la vie des personnages les est montrée comme un destin. Chaque personnage est un petit peu comme l'agent d'une force plus grande que lui. Tout vice dans ce film est donné comme un fait absolu, sans genèse, ni explication. Ces personnages me semblent illustrer la phrase d'Héraclite, le caractère pour l'homme est son démon. C'est-à-dire qu'ils sont en proie à une force qui est plus grande qu'eux, et qui les fait agir. Dire qu'une vie est un destin, c'est pas simplement dire ça. C'est dire que le destin, c'est pas un hasard. C'est pas la même chose que le hasard. Le hasard caractérise la vie de l'âme. Le destin, c'est un peu différent. Le destin, c'est être responsable d'un sens, même s'il est inintelligible et immodifiable. Et le destin, ici, c'est le mal. Le destin, c'est celui d'une humanité qui est vouée au mal, et en ce sens, ça peut paraître un petit peu cucu ou prétentieux de dire ça, mais je pense que c'est vraiment un film pascalien. C'est vraiment un regard sur une humanité qui est totalement vouée au mal et qui n'a aucune possibilité de s'en sortir. Puis évidemment, comme il n'y a pas d'intervention de la grâce, c'est assez désespérant. Il y a quelques personnages bons, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Jacques, il y a la mère, et ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont sans force et que pour finir, ils sont des victimes. Dire que c'est tragique, c'est dire une troisième chose, c'est dire que les personnages, d'une certaine manière, ne sont pas jugés. Ce qui caractérise ces personnages, c'est que puisqu'ils ont tous un destin et qu'ils sont complètement isolés les uns des autres, qu'ils sont des insulaires, alors ils n'ont aucune compassion. Ils n'ont aucune compassion, c'est-à-dire qu'on a une humanité, on a le spectacle d'une humanité qui manque complètement à son humanité, précisément. Et je me suis posé la question, et Robert Bresson, lui, est-ce qu'il a de la compassion pour ses personnages? Est-ce que c'est quelqu'un qui filme ce monde-là avec de la compassion? Et je n'ai pas de réponse à cette question. Je crois que, d'une certaine manière, moi, j'ai de la compassion pour le monde qui nous montre. Je le trouve atroce, en fait. Je trouve le film presque insupportable. Mais oui, je pense que j'ai une certaine compassion, mais je ne la ressens pas réellement dans la manière dont c'est filmé. Il me semble que dans la manière dont c'est filmé, il n'y a ni compassion, ni jugement. Et ça, c'est le propre d'un vrai regard tragique. C'est aussi le propre d'une morale aristocratique. C'est le propre d'une morale aristocratique et chrétienne, parce que si on est un aristocrate chrétien, alors on sait qu'il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu, et qu'on n'a pas à juger les hommes. Les personnages sont, à certains égards, des types moraux. Encore une fois, l'avare, l'orgueilleux et tout. Ce ne sont jamais des caricatures. Ils sont filmés avec beaucoup de délicatesse, presque du respect. Ça veut nous dire que, d'une certaine manière, dans ce film, toute vie est une énigme. Une énigme pour celui qui la vit, une énigme pour celui qui la regarde, une énigme qu'on approche avec délicatesse, mais que cette énigme est en même temps une perdition, une forme de séparation, sans compréhension, ni compassion. Merci. Vous avez des questions, pas forcément sur une interprétation balancée de manière comme ça, très magistrale. un peu massive, mais même sur le film, après tout, je connais bien Bresson, je peux peut-être répondre à des interrogations qui viennent d'autre chose que ce que j'ai dit.
Par rapport aux larmes, par exemple, qui pourraient être. Enfin, je ne sais pas, d'un seul coup, je pense aux larmes, et comme une sorte de prise de conscience de soi, et qu'on montre d'une certaine manière. Et il y a à plusieurs reprises, il y a des larmes. Et je ne sais pas pourquoi, j'y pense là maintenant. Les choses n'attirent pas fort.
Oui, alors il y a plusieurs, à plusieurs reprises, il y a des larmes. Hein. Plusieurs reprises, il y a des larmes. L'exemple les plus frappantes sont évidemment donc, les larmes de Marie dans la voiture, dont j'ai proposé une interprétation. C'est-à-dire qu'elle ne pleure pas après, elle pleure avant. Voilà, le type est en train de la toucher, à laquelle lui met une claque, ou à laquelle sortir, ou je ne sais pas quoi. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle pleure. Donc voilà pourquoi je dis, elle pleure parce qu'elle sait qu'elle va être défaite. Ouais. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est toujours d'être défait sans être battu. C'est-à-dire qu'elle pleure sur sa propre passivité, quoi. Elle pleure sur le fait que... Là, c'est un personnage qui, dans tout le film, est entièrement passif et dont le comportement est réellement inintelligible, d'une certaine manière. Il est inintelligible parce que si il faut se diriger soi-même, dit Bresson, on peut dire que Marie, c'est un personnage qui n'a aucune direction. C'est un personnage qui attire la compassion, parce qu'à la fin, quand l'homme qu'il aime vraiment, ou qui semble l'aimer vraiment, Jacques, dit, vient la chercher, dit qu'il pardonnera tout, etc., elle lui dit, mais tu sais, il y a l'imaginaire et puis il y a le réel, et quand elle dit, je suis sans tendresse, etc., et là on comprend que c'est une âme qui a été détruite, purement et simplement. Quelqu'un qui n'est plus capable d'accueillir la tendresse ou l'amour, hein, c'est quelqu'un dont l'âme est entièrement détruite, et c'est sûr que son parcours est un parcours de destruction. Comme larme, il y a la larme de la boulangère. Ça, je pense que c'est une larme. En plus, c'est assez emphatique. Elle dit ne méprise pas cette larme. Et bien sûr, je pense que c'est surtout pour, enfin, voilà, c'est pour nous montrer que le personnage à qui elle adresse cette prière n'a littéralement aucune espèce de compassion. En fait, il s'en fout complètement. Quoi. Ces déclarations grandiloquentes, ne méprise pas cette larme, n'ont absolument aucune chance de toucher cet individu. Et c'est très intéressant parce que ça m'est déjà arrivé, ça nous est tous arrivé de lancer quelque chose d'un peu grandiloquent et de parler à quelqu'un qui s'en fout complètement. Et là, c'est exactement le cas. Et c'est la même chose qui se répète avec les larmes de la mère. Un personnage assez énigmatique, c'est un assez beau personnage, je trouve, représenté avec beaucoup de sobriété. Elle pleure, elle dit « Ne prenez pas l'âne, il est vieux, c'est tout ce qui me reste, et c'est un saint. » Et là, c'est pareil, ces larmes, ce n'est pas du tout le signe d'une prise de conscience. La larme, c'est un phénomène physiologique, quoi. C'est physiologique, c'est... Voilà, de même que quand on pleure devant le film, c'est une réaction physiologique. Oui, mais pourquoi elle pleure? Elle pleure parce qu'elle a perdu. C'est normal, elle a perdu son mari. Enfin, c'est ça, elle pleure parce qu'elle a perdu son mari. Mais c'est normal, moi, si je perds ma femme, je vais pleurer, je pense. Enfin, en soi, ça me paraît pas. Quelque chose de très significatif. Ce qui est significatif, c'est le fait que ça ne touche pas les garçons qui viennent la voir. C'est pas bizarre de pas pleurer, de pleurer quand on a perdu son mari. Ce qui est bizarre, ce qui nous frappe, ce qui, moi, me choque, c'est le fait que les deux types qui viennent pour lui demander l'âne, alors qu'elle lui dit ne le prenez pas, viennent le voler pendant la nuit. C'est ça qui est bizarre. C'est pas de pleurer quand on vient de perdre son mari et sa fille. Enfin, elle a des raisons de pleurer, quoi. Non? Vous ne pleurez pas? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, mais c'est quelqu'un qui est souvent filmé, enfin, cette actrice, enfin, c'est pas cette, non, cette actrice, que dis-je là, mon Dieu, ce modèle est toujours filmé de manière assez, très respectueuse, je pense, et tous, encore une fois, c'est jamais des caricatures, mais elle, évidemment, comme elle fait jamais rien de mal, alors quand elle pleure, bien sûr, ça atteint, elle atteint quelque chose de, pour le coup, vraiment émouvant. Puis elle, on peut comprendre pourquoi elle pleure, précisément. Oui, et on peut comprendre, elle, effectivement, à ce moment-là, c'est normal de pleurer. C'est plus difficile de comprendre. Voilà, les larmes réellement énigmatiques, c'est celle de Marie, quoi. C'est celle qui, dans la voiture, après tout, qu'est-ce qui se passe? Il fait beau, elle est dans la voiture. Ouais, mais il y a un garçon et tout. pas, quoi, c'est pas. C'est ça que j'appelle le tragique, c'est de montrer ces choses-là comme étant tragiques. Parce qu'au fond, on pourrait dire que c'est rien de tragique. Enfin, une fois, elle voit son âne, elle s'arrête, il y a un garçon, il est pas mal, elle n'a pas envie, puis pour finir, elle a envie. Ouf. C'est assez banal en réalité. Oui, elle dit ça à Jacques, elle dit l'imaginaire c'est une chose, mais la réalité c'est autre chose. Mais c'est très amer quand elle dit ça. Ce qu'elle veut dire, c'est que la réalité n'est pas du tout à la hauteur de nos rêves, ou que quand on se réveille, ça fait mal. Mais là, non, je pense que le tragique dans le filmage de cette scène de séduction, qui est une scène assez longue, assez bien, très bien conduite, ben là c'est plutôt. C'est le regard qui rend les choses tragiques, c'est-à-dire que ce qui pourrait être présenté comme quelque chose de tout à fait insignifiant ou innocent. Genre une jeune fille qui change d'avis parce que c'est comme ça, c'est l'été, etc. Le garçon, il est pas mal, nous est présenté comme une défaite totale et comme un spectacle, ce que j'appelle un spectacle moral. Je pense que c'est un film qui impose une image morale du monde. C'est peut-être mon propre tour d'esprit de moraliste qui me fait voir les choses comme ça, je ne sais pas.
Mais cette opacité, elle fait apparaître comme mensonge la parole d'échange Jacques et elle, quand il lui dit je t'aimerai à jamais, etc. Ça, si on s'en tient à ce cadre de discours, on sait que c'est l'ouverture au mensonge. Donc si vérité il y a, on va la chercher ailleurs que dans les intentions de l'État personnel. Il lui dit je t'aimerai toute la vie, je sais pas quoi.
Oui, oui, vous avez raison, en effet. Ça apparaît comme. Moi, je ne trouve pas que ça apparaît comme mensonge, ça apparaît comme une parole totalement inopérante. Voilà, ça apparaît comme inopérant. Par exemple, quand. Au fond, elle va tout gâcher, puisqu'elle retourne voir elle retourne voir ses canailles, tout ça pour avoir une explication franche, comme si on avait besoin d'avoir des explications franches avec de pures canailles. Mais. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il lui dit n'y va pas. Et sa parole n'a aucun effet. Bon. Voilà, moi c'est ça qui me frappe, c'est que si vous aimez quelqu'un pour toute la vie, vous l'aimez pour maintenant, et si vous l'aimez pour maintenant, il faut faire quelque chose qui correspond à ce qu'il y a à faire au moment même. Donc on dit pas n'y va pas, puis on la laisse partir, c'est ridicule.
En fait, elle lui dit aussi que ses paroles, ça vaut plus rien, ça veut rien dire, sur le même banc. Elle dit que ces paroles-là, avec des paroles, ça veut rien dire, elle les ressent pas, enfin c'est...
Ah oui, je suis tout à fait d'accord, mais moi j'ai voué ma vie à la parole, donc je considère que, d'une certaine manière, si on pense que la parole a aucun sens, on n'est pas humain. Donc, voilà. Alors oui, ce régime de parole, j'entends bien, mais je vois plutôt la scène, moi je vois plutôt vraiment la scène comme le terme d'un parcours où c'est quelqu'un qui dit « je n'ai plus de tendresse, je ne sens plus rien ». Donc il y a quand même, pour moi, c'est quand même le terme d'un parcours où, voilà, où c'est une âme qui est vraiment sacrément détruite. Parce que bien évidemment, on n'a aucune raison, si vous voulez, de prendre au sérieux un serment. C'est jamais que des mots, je t'aimerai toujours et tout. Puis tout le monde sait que ça ne veut rien dire, on ne peut pas s'engager pour toujours, bien évidemment. Mais on peut croire à l'intention de la personne qui le dit, au moins elle le dit. Quand quelqu'un dit « je t'aime et je t'aimerai toujours », on n'est pas en train de lui demander de signer un papier pour que ce soit vrai toujours. Ce qui nous importe, c'est ce qui est en train de se passer sur le moment. Et pour elle peut plus, quoi. D'ailleurs, c'est assez beau. Après, elle va dans les tables, elle dit « je l'aimerai ». Il faut faire un effort, quoi. Ce serait bien si elle pouvait le faire. Mais je trouve pas que... comment dirais-je? Il me semble que la façon... Le régime de parole des personnages de Bresson ne me semble pas plus véridique que le régime de parole qui dénonce, voilà. C'est-à-dire ce code expressif, etc. Voilà. Je ne trouve pas tellement...
Non, mais l'idée de parole muette, pour ça, elle est forte.
Voilà.
Je sais pas ce qui me frappe, l'œil de l'éléphant. Il y a tout un paysage qui se fait jour tout à coup, c'est-à-dire d'autres histoires se racontent. N'a rien à voir avec la narration, l'apparence.
Tout à fait, oui, parce que.
L'isola de chaque personnage à la façon de ses animaux.
De ses animaux, voilà, le singe, le tigre.
Leur logique propre entre le tigre, le singe, le
Oui, il y a un chimpanzé, un ours blanc, un...
Ils n'ont pas grand-chose à faire ensemble. Si ce n'est qu'ils sont réunis par un cirque.
Bah, surtout, ce qui les caractérise, c'est qu'on ne peut pas comprendre leur regard. Quoi. Ce qui caractérise les animaux, c'est leur souveraine indifférence à l'ordre de nos propres intentions. Et donc, on ne peut pas comprendre leur...
C'est la mise en co-présence de gens qui n'ont rien à comprendre.
Oui, bah, ce film, c'est un cirque, alors, de ce point de vue-là, parce que, d'une certaine manière... encore une fois, que ce soit Arnold ou que ce soit Marie ou que ce soit Gérard, au fond, on voit bien ce qu'ils font, mais pourquoi ils le font ? Ça m'est, personnellement, ça m'est complètement inaccessible. Quoi. C'est, cette manière.
Ça me paraît être ça quand même le cinéma de Bresson, c'est-à-dire, je l'ai dit à mon camarade tout à l'heure, c'est le cinéma se frapper à un moment donné, il coupe le plan là.
Oui.
C'est-à-dire, on voit le bas du corps et pas le visage.
Ouais. Or, je pense que c'est une image action, ça. Non, mais je pense que c'est, ça, c'est une image action. C'est-à-dire que c'est très frappant chez Bresson. Il y a vraiment ces deux types d'images. Il y a ces images qui sont des pures images relais. On voit une main, on voit un regard, une main, des pieds. Comme on voit le gendarme qui arrive, on voit que ses pieds, etc. Dès qu'il est dans l'action, il montre des fragments. Et puis tout à coup, il y a ces machins où, voilà, comme la scène dans la voiture où on voit l'alarme qui coule. Et là, on n'est plus du tout dans cette.
Propose au spectateur un travail de compléter l'image qu'il a. Parce que ça, moi, d'un coup, j'ai été saisi parce que je me demande si j'ai déjà vu ça. C'est-à-dire qu'on filme un pied, une main, oui, mais filmer un buste et couper la tête, si je peux dire, j'ai l'impression que j'ai rarement vu ça. Sans.
Oui, c'est sa manière de faire, bien sûr.
C'est pareil, je dirais presque métaphysiquement, c'est-à-dire. Est-ce que vous acceptez ce principe d'opacité ou est-ce que vous y réagissez ? Non.
Mais moi, il me frappe plus, ce principe d'opacité me frappe plus quand, justement, quand on voit les visages et quand on les entend parler. C'est-à-dire, quand on entend, quand on voit juste des mains, des pieds, etc., au fond, on comprend très bien ce qui se passe. Là où on ne comprend plus, à mon avis, là où ça devient vraiment énigmatique, c'est quand on voit les visages et quand les gens parlent. Quand on voit le montage de l'âne qui est en train, voilà, on voit ses pieds qui tire une charrette, etc. On comprend très bien. Quand on voit quand on voit les contrebandiers mettre leur machin, prendre un bâton, taper sur l'âne, là on comprend très bien. Ce qu'on comprend plus, c'est quand on voit les visages. Je vous dis, quand tout à coup on a un autre type d'image, on se dit mais.
De la même façon, le personnage là, de Gilbert, bon, il est dostoïevskien, christique en même temps que.
Oui, je pense que c'est un idiot, c'est effectivement, même si en réalité, le moment le plus dostoïevskien, c'est la confrontation entre, le capitaine de gendarmerie et Gérard, qui rappelle un petit peu Pickpocket, quoi, c'est-à-dire qui rappelle un peu Crime et Châtiment, quoi, c'est-à-dire le type qui dit, c'est peut-être moi qui ai fait le coup, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans le film quand on la voit la première fois. Mais d'abord parce qu'on ne sait pas pourquoi les gens sont là. Apparemment, il y a eu un mort, mais personne ne sait qui, quoi, comment. Et personne ne le saura jamais. Rien dans le film ne l'explique. Et tout ce qu'on sait, c'est que les contrebandiers sont soupçonnés parce que c'est les mauvais garçons, que Arnold est soupçonné et que ça va servir à Gérard à piéger Arnold. Parce que comme Arnold a des crises de démence, etc., et qu'il ne sait pas ce qu'il fait, alors l'autre ne va pas arrêter de le manipuler en lui disant « c'est toi l'assassin ». Tu t'en souviens pas, mais c'est forcément toi, etc. Voilà. Et on ne saura jamais si c'est vrai. C'est pas tellement le problème, au fond, je pense. Donc la scène est assez difficile à saisir, mais comme j'ai vu le film plein de fois, maintenant je vois bien comment elle est foutue. Et là, il y a quelque chose, encore une fois, comme dans Pickpocket, où il y a quand même un jeu tout le temps entre le commissaire et le Pickpocket, qui rappelle énormément Crime et Châtiment. Mais oui, c'est un personnage d'idiot. Mais alors lui, il est vraiment complètement opaque, quoi, c'est-à-dire il regarde... on sent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, mais...
C'est pas tant le fait qu'il y ait une révélation d'une vérité intérieure, c'est le fait qu'il y a une portée à se dire « il y a quelque chose ». N'est pas forcément du registre de la vérité. Il y a autre chose que ce qu'on voit. Pour moi, c'est évident sur ce personnage. Pas être cantonné à la fonction de benet ou de je ne sais pas quoi. Il est porté par une autre force.
Il est porté par quelque chose, c'est ce que j'ai dit. Je pense que les personnages sont ils ont un destin, quoi. Ils ont une force en eux qui est plus forte qu'eux, etc. Mais quant à dire ça me paraît difficile de leur prêter réellement, encore une fois, un système d'intention, parce que pourquoi serait-il dissimulé?
Non, mais justement, c'est la sortie de l'intentionnalité manifeste pour être mis devant un régime d'opacité qui pose question sur le caractère de destin ou de cette force-là, dont vous dites le démon, l'héraclite, c'est ça?
Oui. Le caractère est pour chaque homme son démon. Ouais. Oui?
Votre exposé était beaucoup plus riche que tout ce que je peux penser comme ça spontanément, hein, mais il y a juste un point qui me pose problème dans ce que vous avez dit, c'est la question du destin. J'ai absolument pas ressenti, en voyant le film, on a plutôt l'impression qu'il y a une sorte de cruauté du réel. Les choses arrivent, se produisent, elles se produisent en raison d'une sorte de destruction, d'auto-destruction des personnages à travers ce que vous avez appelé le mal. J'ai absolument pas senti la notion de destin, étant entendu que la notion de destin probablement signifie qu'il y a une préinscription de ce qui va se passer quelque part. Là, pour moi, il n'y a aucune préinscription. Justement, le réel arrive avec sa cruauté, sans que la parole des uns et des autres ait vraiment prise sur ce réel. Et d'ailleurs, vous avez bien souligné que les gens disent des choses et puis aussitôt après,
C'est le contraire,
les faits démentent. Mais voilà, je voulais juste, par réaction, dire j'ai une grande réserve par rapport à la notion de destin. Mais voilà,
oui. Oui, c'est peut-être pas un très bon mot, mais c'est pour ça que je l'ai défini. C'est-à-dire, j'ai dit d'abord le destin, ça veut dire qu'on est pris par. Ça veut pas. Pour moi, c'est pas du tout un truc de préinscription, sauf en un sens bien particulier. Pour moi, le destin, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'on n'a pas de prise sur sa propre vie. Qu'on n'a pas de prise sur la. Voilà, on n'a pas de prise sur le sens de sa vie. Soit parce qu'on est trop passif, soit parce qu'on est agi par quelque chose qui est plus fort que nous. En ce sens, la vie prend le sens d'un destin. Deuxième point, le destin, je me suis dit, mais l'âne n'a pas de destin. L'âne, il fait une série de rencontres hasardeuses. On ne peut parler du destin qu'à propos de la vie humaine. Ce que nous montre la présence de cet âne, c'est que lui, ce n'est pas un être qui a un destin, parce que lui, il n'a aucun moyen d'avoir une prise sur sa vie. Donc, je parlais de destin parce que, en même temps qu'ils n'ont pas prise sur leur vie, ils en sont quand même responsables, ce qui n'est pas le cas de cet âne. Et enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas quelque chose qui est écrit. Ils ne sont pas surplombés par un fatum, une parole qui les vouerait. Mais d'une certaine manière, ils sont dans un monde. Pour moi, c'est un monde pascalien, au sens que c'est un monde qui est. Voilà, c'est un monde après la chute, c'est un monde qui est voué au mal. Et c'est pour ça que je parle de destin. C'est que c'est voué au mal et qu'il n'y a aucune rédemption. Et les personnages n'ont aucun moyen de reprendre pied là-dedans. Au contraire, ils s'enfoncent dans leur truc. Le maître d'école, au départ, bon, il est fier, on voit bien que c'est un type un peu fiérot, quoi. Il a cultivé ses 200 hectares en ayant tout appris dans les livres. C'est un certain type de rapport au monde, quoi, de croire qu'on maîtrise le réel grâce aux livres. Hein. Mais plus ça va, plus il s'enfonce. Donc évidemment, c'est pas que c'est écrit. C'est juste qu'il n'a pas les moyens de reprendre pied dans le sens de sa vie et d'en être le directeur, au sens où Bresson dit qu'il faut se diriger soi-même. Mais si le mot vous gêne, je n'y tiens pas particulièrement.
C'est pas par hasard qu'il y a le mot hasard dans le titre.
Le titre, c'est le titre. Oui, l'âne est victime du hasard. Et par ailleurs, pour l'anecdote, le titre est une des devises. Le titre n'est pas inventé par Bresson. C'est une des devises des seigneurs et comtes des Baux de Provence. C'est une expression qui existait déjà, qui est très belle, effectivement, qui sonne bien au hasard Balthazar, puisque figurez-vous que les comtes des Baux de Provence, enfin, ça n'a aucun rapport avec le film d'ailleurs, mais les comtes des Baux de Provence. Il y a des hagiographes qui écrivaient qu'ils descendaient de Balthazar, le roi mage, et donc ils avaient fait de ça leur devise. Voilà. C'est pour ça qu'il a aussi pris cette expression toute faite. Ça sonne comme une devise. Et,
De façon personnelle, on peut isoler un mot, pas obligé de prendre le syntagme, choisir
Ah, mais si vous mettez hasard seulement, c'est moins drôle que au hasard, Balthazar.
réflexion que vous menez là, hasard et destiné, hasard et destin, hein, deux notions qui s'appellent l'une l'autre.
Monsieur, vous vouliez...
Ouais, je remarque une fois de plus, dans un film de Besson, il n'y a pas de musique de film.
Dans
l'argent, il y avait juste la partie où...
Mais il y a pas mal de musique, en fait, là. Si on écoute...
Il n'y a que Transistor de Gérard.
Mais non, il y a la sonate numéro 20 de Schubert.
Ah ouais,
c'est vrai, non, mais je vous jure, et parce que je me suis intéressé à cette question du son. Et en fait, il y a pas mal d'interventions de la musique de Schubert. Il y en a pas mal. D'ailleurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention cette musique et... Entre parenthèses, c'est super bien joué. En fait, je suis un peu mélomane et je me dis, tiens, mais en fait, en plus, il a choisi un truc qui est vraiment... le type joue bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Et ça ne m'étonne pas. Bresson est très, très attentif à ce genre de détails. Mais en fait, ce n'est pas une musique de film. Ce n'est pas une musique composée pour le film. Alors, il y a des gens qui pourraient dire, bon, c'est encore du Bresson, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui affiche les signes de l'art. Il met du Schubert et tout. Mais en fait, dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien, je trouve. Je me souviens plus dans parce que l'argent, je l'ai vu à sa sortie et je ne l'ai pas revu depuis, mais c'est le premier Bresson que j'ai vu, donc il m'a énormément marqué. Je me suis dit, ah, mais c'est ça, Bresson, et c'est pas du tout chiant, en fait. c'est très intéressant. Et je ne l'ai pas revu depuis, donc je ne me souviens plus comment. C'est bien l'argent, au fond. Bah, je l'ai vu quand j'avais 15, 17 ans, un truc dans le genre. Dans mon souvenir, c'est vraiment un film extraordinaire, les trucs, les mains qui cueillent les noisettes, l'éclat de hache, le meurtre dans la maison avec le chien et tout. Ça, c'est des scènes, je ne m'en souviens pas toute ma vie, je crois. Bon, mais je raconte ma vie, donc il faut arrêter le débat. Non, est-ce qu'il y a encore des questions ? C'est bon, Annie ?
Oui, c'était très intense. Je crois que moi, je n'avais jamais vu ce film. Je viens de constater que je n'avais jamais vu. Je croyais l'avoir vu, mais je ne l'avais pas vu.
Quoi ? C'est considéré comme le film... je pense que c'est un des films de Bresson qui a été le plus populaire. Et il y a des gens qui disent que c'est à cause du caractère sentimental de l'âne. Les gens aiment bien les ânes en général. Et donc... Et donc, le film a assez bien marché, etc. Moi, je trouve que c'est un film vraiment très dur, vraiment presque insupportable, et ça m'étonne que ça ait bien marché, mais il est peut-être plus facile, effectivement, que... C'est plus facile que Procès de Jeanne d'Arc, ou même que Pickpocket, en fait.
Voilà.